Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes et c'était hier la journée la plus chaude jamais mesurée en France. Épisode intense, précoce, durable, étendu. Et aujourd'hui, c'est encore 58 départements qui sont en vigilance rouge. On pourrait déjà battre les records que l'on a battus hier. La France souffre, clim ou pas clim ?
Peut-être commencer par apporter mon soutien aux Français qui souffrent. Moi, je fais partie des gens qui souffrent deux fois. Un, de la chaleur. Deux, en écoutant sur les plateaux télé certains raconter n'importe quoi. Et préciser que lundi, on a connu en France une température qui était supérieure à celle de 98,8% du globe. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1,2% des endroits du globe où il faisait plus chaud lundi qu'en France, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, le Sahara. En gros, c'est pour vous montrer que la France n'échappera pas au phénomène climatique. Alors sur la clim, je le dis depuis un plateau climatisé.
Tout à fait.
Il fut un temps où on disait, en fait, on peut pas climatiser partout, tout le temps, et c'est pas ça l'urgence. L'urgence, dans les années 70, c'était de se battre pour qu'il n'y ait pas de changement climatique ou le moins possible. Là où nous en sommes aujourd'hui, on est obligé de combiner deux choses. L'atténuation, donc continuer à se battre pour que ça n'empire pas, et l'adaptation, c'est-à-dire maintenant qu'il est présent, très fortement présent, comment on fait? Mais je dis bien à celles et ceux qui n'ont comme réponse que la clim, il y en a beaucoup, que si vous avez une fuite dans votre cave et que vous écopez sans jamais colmater la fuite, alors vous allez écoper longtemps.
Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Exactement.
À la fois adaptation
on
et en effet gérer l'urgence, c'est quand même pas ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, non, on n'a jamais été totalement contre. Regardez, il y a encore un an, le Conseil confédéral du parti a voté, c'était en juin dernier, contre la clim. La climatisation est, je cite, contre-productive, coûteuse, inégalitaire. C'est une maladaptation, elle aggrave la situation, la climatisation individuelle réchauffe ainsi les quartiers et pèse sur le réseau électrique. Est-ce que vous n'avez pas privé une partie des Français, et notamment les plus modestes, l'idée de dire, écoutez, nous, on constate qu'il va y avoir un réchauffement climatique, et donc, on va protéger les plus modestes.
Alors, c'est premièrement, ce que nous disons là est vrai. La clim fait partie des solutions. C'est, vous savez, le climat, c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire que, il y a cette boule de neige qui dévale la pente, et en fait, ce que vous mettez en place aggrave le phénomène. La clim, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un logement parisien, vous avez la chance d'avoir la clim, la chaleur de votre logement est rejetée à l'extérieur, donc dans la rue, et au bord des fenêtres de vos voisins qui peut-être n'ont pas cette chance. Donc on dit que c'est pas une solution miracle et que ça n'empêche
non,
pas
non,
de dire
attends,
que dans
pardon,
les services
vous
publics,
pas juste que c'était pas une solution miracle.
C'est
disiez,
une maladaptation.
Vous disiez
évidemment.
C'est contre-productif, coûteux, inégalitaire.
C'est vrai, c'est inégalitaire de se dire aujourd'hui, comme le fait le RN, la seule solution c'est la clim, parce que tout le monde ne l'aura pas, et tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Donc si vous ne faites pas ce que font les mairies écologistes,
mais vous auriez pu aussi décider
exemple,
que c'était des investissements
Madame Apolline
sur lesquels il fallait accompagner les Français.
Pas vous et pas à moi. Aujourd'hui, les villes écolos mettent en place des choses que les villes de droite ne mettent pas en place. La gratuité des piscines, la baignabilité d'espaces naturels, le fait d'avoir cette règle des 333, c'est-à-dire 300 mètres de chez vous, un parc. De votre fenêtre, 3 arbres, forcément, et 30% de couvert végétal l'été, n'importe où dans la ville. Les villes écolos font ouvrir les musées climatisés pour que tout le monde y ait accès.
Ah bah, le Louvre va fermer plus tôt ce soir.
C'est pas une ville écologiste.
Non.
Regardez
non,
à
pas.
Lyon.
Je serai
avec Grégory Doucet tout à l'heure.
Pardon,
c'est les
mais les écologistes
mais donc,
gouvernent
Madame
à Paris
Apolline
avec
Devenir,
la majorité
est-ce que vous pouvez admettre que c'est toujours de la faute des écologistes dans ce pays? Moi, j'en ai ras-le-bol de ce niveau de débat public déplorable où on alerte pendant des décennies et on se moque de nous. Et quand le problème arrive, c'est encore de notre faute. Mais les autres, ils faisaient quoi? Ils ont fait quoi pour empêcher qu'on en arrive là? Ils sortent un plan clim, Madame Le Pen, qui sort son plan clim. Elle sort exactement
aujourd'hui,
la même proposition.
Aujourd'hui, tout le monde est pour la clim, sauf Jean-Luc Mélenchon.
Elle sort exactement la même proposition qu'il y a un an. Elle n'a pas travaillé entre-temps. Ce plan clim n'est pas chiffré, ne figure dans aucun de ses programmes et aucun de ses documents de campagne. Et moi, ce que je retiens du Rassemblement National, c'est que en 2023, elle disait « Oui, mais le GIEC, ils sont toujours alarmistes. Ils ont toujours été alarmistes. Ils travaillent tellement sur le sujet qu'ils sont très pessimistes. » Thomas Ménager, porte-parole du Rassemblement National. « On ne peut pas se baser sur les données du GIEC. Si on suit totalement les données du GIEC, on risque de contrevenir à la qualité de vie des des Français, mais aujourd'hui la qualité de vie des Français, elle souffre de leur inaction climatique et de tous les votes contre l'écologie qu'ils ont fait. Et donc moi je viens être responsable une première fois, parce que quand on lance l'alarme, on nous dit qu'on est pénible, mais si en plus quand le risque sur lequel on alerte depuis des décennies, seul et sous les moqueries générales, se produit, c'est encore de notre faute, ça commence, convenez-en, à faire beaucoup.
Et tout le monde est d'accord sur le fait que les risques, vous faites partie des premiers à avoir alerté et avoir alerté inlassablement, mais il y a quand même une question. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, y compris des experts très écologistes, vous parliez du GIEC, vous parliez, on peut parler aussi de Jean-Marc Jancovici, des gens qui aujourd'hui disent pourquoi est-ce que la France peut se permettre la clim ? Parce qu'en France, l'énergie est décarbonée. Et pourquoi elle est décarbonée ?
Alors, je vois que vous allez l'emmener sur le nucléaire, mais je vous dis tout de suite que
pourquoi
en ce moment et quand il y a des clims, c'est le moment où l'énergie solaire marche à plein. On a atteint des records hier de production solaire
et donc en pleine canicule. Pourquoi est-ce que l'énergie est décarbonée en France ?
Par principe.
Pourquoi est-ce que l'énergie est décarbonée ?
Quand il y a une canicule, il y a beaucoup d'énergie solaire.
Au-delà d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'énergie est décarbonée en France ?
Pour l'instant, c'est grâce au nucléaire, parce que la France est le bonnet d'âne européen sur les énergies renouvelables. Mais il n'empêche que le nucléaire est trop cher, et de plus en plus cher, et que les nouveaux EPR, personne ne sait les financer, même la Cour des comptes le dit. Il n'empêche que le nucléaire est trop lent pour atteindre la neutralité carbone à temps pour respecter les accords de Paris, parce que les nouveaux EPR ouvriront pas avant 2045, si tout va bien. Il se trouve que le nucléaire est très vulnérable
si
en période de canicule.
Ils ont suivi les Verts, on aurait des gaz à effet de serre beaucoup plus importants.
Madame de Malherbe, l'Allemagne sera à 80% de renouvelables en 2030.
Les Verts font leur...
On prend pas de
Les verts allemands font aujourd'hui leur mea culpa, vous l'avez entendu.
Les Français ne font pas de leçon de morale sur le renouvelable. Les Français sont les bonnets d'âne de l'Europe. Quand ils ont dû fixer leur objectif pour l'énergie renouvelable, ils ont fixé l'objectif le plus faible d'Europe. Aujourd'hui, on est le bonnet d'âne, on est le seul pays qui n'a pas respecté ses accords.
Quand on regarde les chiffres... Et
Carbonation, c'est le carbone.
L'INSEE donne ce chiffre, 25% de moins d'émissions de gaz à effet de serre en France depuis 10 ans. Est-ce que vous reconnaissez ce chiffre ?
Alors, il y a eu des années où ce chiffre s'est produit parce que on avait une désindustrialisation, qu'on a eu des hivers beaucoup plus chauds, moins rigoureux, donc moins de chauffage, et qu'on a eu une crise de Covid qui fait que dans certains secteurs très émetteurs, notamment l'aviation, ça s'est arrêté un temps. Il y a aussi des secteurs qui s'améliorent, l'industrie notamment, mais je vous l'ai dit, pas que pour des raisons.
Est-ce que vous vous félicitez de ce chiffre? 25% de moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Ce que je vous dis, madame de Malherbe, et vous verrez que les nouveaux scénarios de RTE sortiront en octobre et montreront que le 100% renouvelable est possible et que là, ils rendent la France d'ailleurs vraiment indépendante de l'uranium russe que l'on continue à importer malgré les sanctions économiques qu'on est censé respecter. Et donc, le 100% renouvelable, c'est possible, beaucoup plus fiable que le nucléaire, beaucoup moins cher et beaucoup plus résistant parce
que. Vous prenez donc toujours la sortie du nucléaire.
Évidemment. Mais pas demain, pas en trois semaines, pas sans prolonger les centrales actuelles. On n'a pas le choix, sinon il y aura un effet falaise. Mais vous verrez que la centrale de Golfech, depuis deux jours, est à l'arrêt parce que la Garonne est à 38 degrés, qu'elle ne fonctionne plus, que dans l'Ain, au Bugey, on a dû ralentir aussi
parce
la production.
Parce que le risque de refroidissement, effectivement,
alors,
de la centrale...
Alors, soit on est au bord d'un fleuve et qu'on n'arrive pas à la refroidir, soit on est au bord de la mer et bientôt il y aura la submersion marine.
Marine Tondelier, je vous repose la question. Est-ce que vous vous félicitez malgré tout que la France ait réussi à baisser de 25% ses émissions de gaz à effet de serre ?
Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, mais elle aurait pu le faire par du renouvelable, comme le font d'autres pays, qui sont aujourd'hui à 80% de renouvelables dans leur production électrique, comme l'Allemagne, et quand nous, on galère. Voilà.
L'Allemagne qui a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que nous.
À cause du gaz.
Et à cause des centrales à charbon.
Mais on a du gaz aussi en France.
Et pourquoi les centrales à charbon parce qu'ils ont fermé les centrales nucléaires.
Non, madame de la mer, il y avait du charbon avant, et il y en a pendant, et la part de charbon baisse.
Ma question, c'est est-ce que malgré tout, c'est-à-dire que quand je vous écoute, il y a zéro.
Mais alors, je veux bien qu'on fasse toutes les missions sur nucléaire, je pense pas que dans la torpeur de cet été, c'est soi qui a été foncé. Mais non, parce que si on était en 100% renouvelable, on n'en serait pas là. Voilà. Non plus. Yes. Et on n'aurait pas des centrales qui galèrent à fonctionner l'été et dont on ne sait pas comment elles fonctionneront.
Il y en a deux.
Il y en a deux aujourd'hui, mais à l'été 2023, c'était le même topo. Et Monsieur Macron qui dit qui aurait pu prédire l'été 2023, je ne savais pas. J'aimerais bien qu'il nous dise comment à l'été 2100, ces centrales nucléaires fonctionneront.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que parmi le plan, je crois que vous avez un grand plan que vous allez d'ailleurs présenter cet après-midi pour s'adapter effectivement à ce réchauffement climatique. Je vous repose quand même la question de la clim parce que vous m'avez dit, je ne suis pas contre, mais est-ce que vous êtes favorable à aider les particuliers, par exemple, comme on les a aidés à un moment, à mettre le chauffage, comme on les a aidés à adapter leurs habitations, à pouvoir se procurer la clim.
Bah, bien sûr, mais en fait, il faut regarder ça plus globalement. Aujourd'hui, 66% des Français vivent mal l'été dans leur logement. Il y a c'est la moitié, le gouvernement dit un tiers, mais en fait le vrai chiffre c'est la moitié des Français qui vivent dans une bouilloire thermique et 9 Français sur 10 qui vivent dans un logement qui en fait est vulnérable à la chaleur l'été. Quand vous faites une rénovation thermique de votre logement, il y a plein de choses, le diagnostic thermique, en fait c'est beaucoup basé sur l'hiver, très peu sur l'été. Et donc les méthodes pour se protéger l'été qui peuvent être la clim dans des régions ou dans des cas où on ne peut pas s'en passer, mais qui peuvent être aussi des clims non électriques, des clims, vous savez, au plafond, ça peut être des volets, il y a plein de logements aujourd'hui en France qui n'ont pas de volets, eh bien équiper son logement de volets, ce n'est pas pris en charge comme une mesure d'isolation. Et si vous êtes locataire et que vous n'avez pas de volets, vous n'avez pas de droit opposable à dire à votre propriétaire, ce serait quand même bien d'en mettre. Nous voulons changer tout ça. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que l'État respecte ses promesses. Quand ils disent qu'ils vont isoler 40 000 écoles d'ici 10 ans, au rythme où ils vont actuellement, ça prendra 3 siècles. 3 siècles parce que le fonds vert qui était créé pour aider l'adaptation au changement climatique a été, tenez-vous bien, divisé par 4 en 2 ans. Et que entre la vague de chaleur de mai et la vague de chaleur de juin, il n'y a quand même eu que 3 semaines, eh bien, ils ont trouvé le moyen, en 3 semaines, de réannoncer un gel de 20% de ce fonds vert. Et donc, on n'arrive pas à avancer. Donc, nous, ce fonds vert,
mais
nous vous, remettons.
Mais vous, vos mesures d'urgence, c'est quoi?
Bah, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut pas dire, bah, on fait rien sur le climat pendant des décennies, et tout d'un coup, là, c'est urgent, en 3 jours, on a les solutions. Ça marche pas. On fait tout ce qu'on peut dans les villes écolo. Je vous ai dit, on ouvre les musées, on ouvre les espaces verts. À Lyon, les parcs restent ouverts la nuit pour que les gens puissent y dormir si le logement est pas adapté. Et dans les mesures d'adaptation qui prennent un peu plus de temps, il y a cette végétalisation dont je vous ai parlé. Dans les villes écolo, on débitume les cours d'école. Les gamins, quand ils ont une cour d'école végétalisée plutôt que bitumée, ils voient bien la différence en ce moment. On veut aussi mettre en place le congé climatique. Ça, c'est une mesure qu'on pourrait mettre en place très rapidement. J'ai entendu beaucoup d'âneries sur le congé climatique. Peut-être que je rappelle ce que c'est.
Alors dites-moi, parce que votre congé climatique, c'est 5 jours par an pour les salariés
ou 4 ou 6
exposés. Ou 4 ou 6.
Mais c'est tout ça, il t'a discuté. Moi, je mets une idée sur la table, comme je l'ai conçue. Après, le débat suit son cours et on fera au mieux, selon ce que les gens sont prêts
à faire. Décidé par qui? Comment? Financé par quoi?
Alors, le principe aujourd'hui, c'est qu'il y a des employeurs qui, des fois, disent à leurs salariés, venez pas travailler aujourd'hui. Ils prennent sur eux. Il y a des salariés qui peuvent faire valoir ce qu'on appelle aujourd'hui le cas de force majeure, en disant, moi, aujourd'hui, je peux pas venir travailler. Dans ces cas-là, ils ont le droit de pas venir, mais ils sont pas payés. Donc, en fait, il y a déjà des gens qui payent, les employeurs ou les salariés concernés, mais c'est pas un risque qui est mutualisé. Donc, moi, je veux que, comme l'assurance maladie, ce risque, qui est un nouveau risque du 21e siècle, soit assuré collectivement. Donc, il coûtera le même prix, sauf que ce sera assuré collectivement. Ça ne concerne pas tous les Français. Il y a des gens qui peuvent télétravailler dans leur logement climatisé s'ils ont de la chance. Il y a des gens qui sont pas concernés. Mais il y a aussi des personnes dont
comment
le poste
de travail
est inadapté.
Comment on va distinguer ceux qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas?
On fait appel au bon sens et on écrira les cas. Par exemple, je pense que dans le BTP, il paraît assez évident à tout le monde. Moi, je reçois des salariés du BTP qui m'envoient des photos. Ils sont avec les parasols et tout sur les toits. C'est ingérable. Dans certaines exploitations agricoles, des gens qui ont des bureaux. J'étais au Muséum d'Histoire Naturelle la semaine dernière. Dans un bureau, il fait 48 degrés. Comment voulez-vous qu'on travaille là? C'est pas possible. Et il y a des postes qui sont télétravaillables, d'autres non.
Mais aujourd'hui, on adapte les horaires. Par exemple, vous parlez de ces bureaux au Muséum d'Histoire Naturelle. J'imagine qu'ils peuvent venir plus tôt, partir plus tard.
Oui, mais dans le BTP, si vous dites vous arrêtez à 14h au lieu de 16h, ce qui est le cas dans certaines boîtes, vous êtes
dans
exposé.
BTP, oui, mais si vous dites que c'est pour y compris, par exemple,
dans
ces
les
gens
bureaux,
qui travaillent dans un bureau
autre
où il fait 48.
Problème. Dans les bureaux, en fait, comme on n'a pas le droit avec les assurances d'ouvrir les fenêtres la nuit, c'est pas vrai que les températures baissent.
Plutôt qu'un congé climatique, il faudrait pas obliger à ouvrir la nuit.
Ah bah oui, bien sûr, les gens la nuit qui n'auront pas de métro
ouvrir,
pour aller travailler.
À ouvrir, parce que vous dites
ça fait partie de notre plan d'adaptation de demander aux assureurs pendant même dans les crèches, dans les écoles, c'est interdit d'ouvrir les fenêtres la nuit. Donc on devrait pouvoir avoir des gardiens de nuit et ouvrir les fenêtres la nuit dans les périodes de canicule. Mais sur le congé climatique, moi je vous dis une chose, les vérités, ça subit toujours 3 phases. La première phase, ce sont les moqueries. Et moi j'avais entendu Louis Sarkozy dans le studio d'à côté,
chroniqueur de droite,
expliquer que c'était un astrologue qui allait donner des arrêts de travail. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi. Je vous lui donniez la réplique, même vous étiez consterné. J'ai entendu ensuite la deuxième phase, c'est-à-dire la phase
vous vous dites
où c'était
dit. Ce sera décidé par qui?
Parce qu'il y a l'idée où c'est moqué et il y a le moment.
Non, mais
deuxième
moi, je veux
phase
que vous m'expliquez comment ça marche.
Il y a la deuxième
qui
phase.
Qui décide aujourd'hui?
Il y a la phase
congé.
Où c'est moqué et il y a la phase où on commence à argumenter. Et moi, j'ai entendu Monsieur Martin du MEDEF à votre antenne hier qui disait ah ben on peut
il
pas
dit,
parce
je n'en
que...
pense pas de bien. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. On va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de dérèglement dérèglement climatique. Le problème de fond, c'est qu'on ne produit pas assez. Je suis totalement contre, par philosophie, la décroissance n'est pas la solution. C'est chronique, il faudrait toujours moins travailler si on les écoute. Les écoute, c'est vous. Oui, comment alors, on peut gagner plus en travaillant moins? Voilà la question
que
je pose.
Martin a dû lire les mêmes chiffres que moi, fait par l'assureur Allianz, qui est un spécialiste de l'évaluation, qui dit une journée de canicule, c'est l'équivalent d'une demi-journée de grève. Parce que c'est comme ça, les gens sont déjà moins productifs quand il fait très chaud qu'ils se figurent.
Donc vous dites qu'il a bossé déjà une demi-journée de moins.
Autant... à votre antenne que si on travaille pas, si on travaille pas les jours de canicule, on pourra pas financer la transition énergétique. C'est-à-dire quoi? Il faut que les gens meurent sur les toits dans le BTP pour qu'on puisse isoler nos écoles. Ça n'a aucun sens.
Il dit pas que les gens doivent mourir sur les toits, puisqu'il dit par ailleurs que les patrons sont responsables de la sécurité de
figurez-vous, les ministres du Travail dire la même chose à la vague de canicule de mai en disant Marine Tondelier, elle est bien gentille, mais les employeurs, c'est ce qu'ils ont à faire.
Gabriel
le soir.
Attal, lui, dit
attendez,
c'est une très mauvaise solution à un vrai problème.
Madame, vous-même, vous coupez dans chacune de mes réponses. Monsieur le ministre du Travail dit le matin, Marine Tondelier, elle est bien gentille, les employeurs savent ce qu'ils ont à faire. Le soir même, un jeune de 19 ans meurt à l'hôpital après avoir fait un malaise sur un toit. Donc oui, il y a des employeurs qui sont très responsables, qui prennent les bonnes décisions, mais il y a aussi les autres. Et la loi est là justement pour protéger tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Moi, je ne suis pas là pour dire Madame de Malherbe a un droit à un congé climatique. Vous savez bien que vous, votre boulot, il est supportable par canicule, plus que d'autres. Et quand on travaille dans une cuisine par 50 degrés, ça n'est pas possible. Et quand les écoles ferment, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles en France aujourd'hui, eh ben, quand on n'a pas les moyens de télétravailler, parce que le congé climatique s'applique pas quand on a du télétravail. Quand on n'a pas le moyen de télétravailler et que ses enfants ne sont pas en âge de garder tout seul, on fait comment? Donc évidemment qu'il faut fournir ces droits-là, sinon
Marie
on est juste les gens en difficulté.
Gabriel Attal dit que c'est une très mauvaise solution à un vrai problème.
Ça me confirme que ça doit être une bonne solution.
Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, vient de dire que cet épisode pourrait durer jusqu'à 3 semaines, peut-être même jusqu'à la mi-juillet. Est-ce que 5 jours, si on va dans votre logique, est-ce que 5 jours, ce sera suffisant? C'est-à-dire que quitte à faire un congé écologique, vous allez finalement ouvrir une boîte de Pandore et on va se retrouver avec 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois sans pouvoir travailler.
Je vous redis, Madame de Malherbe, que dans les moments comme ça de l'histoire, les bonnes idées sont d'abord moquées, puis critiquer sur le fond, comme c'est le cas actuellement. On est dans la phase 2, parce qu'elle pro lui est restée à la phase 1 pour toute sa vie. Et la phase 3, c'est que
Monique
ça paraît
Barbu,
évident.
Elle est ministre de la transition écologique.
Pour les congés payés en 1936, on a eu les mêmes phases. Aujourd'hui, personne ne dit que les congés payés, ça crée la misère dans le monde. Et ben là, ce sera pareil, ça paraît très évident. Moi, je suis allée en Espagne, où Yolanda Diaz, prosége écologiste, a mis en place cette mesure suite à des morts dans des exploitations agricoles, dans le BTP et dans le gros épisode d'inondation à Valence.
Ça partait des inondations à Valence.
Mais pas que.
C'est après les inondations à Valence,
oui,
on est bien d'accord.
Oui, mais ça venait de loin et le portait depuis longtemps. Les inondations fait que dans l'opinion publique et dans le patronat, par exemple, on arrête de dire non. Ça dure 4 jours et après, on bascule dans le régime du chômage partiel.
On passe au bout de 4 jours en Espagne au chômage.
Dans le régime du chômage partiel, mais qui est moins indemnisé. Donc,
qui va porter cette mesure aujourd'hui? Effectivement, quand on entend Gabriel Attal, quand on entend le patronat, est-ce que vous avez suffisamment autour de vous, est-ce que vous avez pu convaincre, je sais pas, les socialistes, les communistes, LFI, qui va porter cette mesure avec vous?
Écoutez, cette mesure sera déposée sous forme de proposition de loi par Damien Girard. On a une conférence de presse cet après-midi pour l'annoncer. Il est député écologiste de l'Orient et j'entends à gauche pour l'instant soit du soutien très très franc, soit pas d'opposition. Donc on a déjà convaincu notre famille politique qui n'est pas solidaire surtout tout le temps, donc je le note, et les autres on ira les chercher un par un avec le soutien des Français. On a lancé une pétition sur lesécologistes.fr.
Vous avez parlé
qu'on a besoin de faire monter pour soutenir
ce soutien.
Vous avez parlé
de privilèges climatique.
Oui, bien sûr.
C'est quoi les privilèges climatiques? Qui sont les privilégiés du climat?
Les privilèges climatiques, c'est le fait déjà que les milliardaires émettent en 90 minutes plus de CO2 qu'un habitant mondial moyen dans toute sa vie, en 90 minutes, et que les mêmes qui contribuent et qui accélèrent ce changement climatique sont ceux qui en sont préservés parce qu'ils ont la clim, parce qu'ils n'ont pas les boulots qui sont exposés et qu'ils auront toujours les moyens de se sauver, y compris comme Elon Musk en disant « moi je vais aller sur Mars ». Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, regardez les statistiques, dans les 10 départements les plus pauvres, il y a 31% de surmortalité en cas de chaleur que dans les 10 départements français les plus riches. Donc les plus vulnérables sont plus exposés à la chaleur. Ils ont les boulets les plus durs, ils habitent dans les quartiers les plus bétonnés, ils ont les logements les moins bien isolés. Et donc moi je le dis, les privilèges climatiques, ça suffit. Et comme il y a eu la nuit du 4 août 1989 d'abolition des privilèges, et ben moi je suis pour une nuit du 4 août 2027 quand nous aurons gagné pour abolir les privilèges climatiques.
Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.